Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Donc nous sommes à nouveau ensemble ce soir pour la suite du roman de Giuseppe Tomazzi di Lampedusa, Le Guépard. Les bureaux de l'intendance étaient encore déserts, éclairés silencieusement par le soleil qui pénétrait à travers les persiennes closes. Les activités qui se déroulaient là étaient les plus vaines de la villa, mais les lieux n'en étaient pas moins d'une paisible austérité. Le plancher ciré reflétait les murs passés à la chaux et les lourds tableaux qui y étaient suspendus. Entre les cadres noirs, les fiefs appartenant aux Salinas se détachaient, peints en couleurs vives. Salinas, l'île aux montagnes jumelles entourée par la dentelle écumante d'une mer où caracolaient des galères pavoisées. Querchetta, avec ses maisons basses groupées autour de l'église vers laquelle s'avançaient des groupes de pèlerins bleuâtres. Ragatizzi, terré dans une gorge montagneuse, Argi Vocale, minuscule dans une plaine ablée démesurée parsemée de paysans au travail, Donna Fugata, avec son palais baroque, butte de voitures écarlates, vertes, dorées, chargées, semblait-il, de femmes, de bouteilles et de violons. Bien d'autres fiefs encore, tous protégés par un ciel limpide et rassurant, par le guépard, souriant entre ses longues moustaches. Chacun d'eux semblait glorifier par son air de fête le pouvoir éclairé, direct ou indirect, de la maison Salina. Ces chefs-d'œuvre de l'art naïf du siècle passé ne pouvaient pourtant délimiter les frontières, préciser les surfaces, les revenus, toute chose qui d'ailleurs restait ignorée. La richesse séculaire s'était transformée en ornement, en luxe, en plaisir, sans plus. L'abolition des droits féodaux avait décapité les obligations comme les privilèges. La richesse, comme un vin vieux, avait laissé tomber au fond du tonneau la lie de la cupidité, des soucis et aussi celle de la prudence, pour ne conserver que chaleur et couleur. De cette manière, elle finissait par se détruire elle-même. Cette richesse, parvenue à sa propre fin, ne se composait plus que d'huiles essentielles. Et comme les huiles essentielles, elles s'évaporaient rapidement. Déjà quelques-uns de ces fiefs si joyeux sur les tableaux avaient pris leur vol, ne laissant en souvenir que leur nom et ses toiles bariolées. D'autres ressemblaient aux hirondelles de septembre encore présentes, mais déjà réunies à grands cris sur les toits, prêtes à partir. Bah, il y en avait tant. On avait l'impression qu'on ne verrait jamais la fin. Malgré cela, le prince éprouva, comme d'habitude, en entrant dans son bureau, une impression désagréable. Au centre de la pièce trônait un secrétaire avec des dizaines de tiroirs, de niches, de casiers, de cachettes, de tablettes culbutantes. Sa masse de bois jaune à incrustation noire était creusée et truquée comme une scène de théâtre, pleine de trappes, de plans à glissière, de dispositifs secrets que personne ne savait plus faire fonctionner, sauf les voleurs.
Il était couvert de papier, et bien que le prince prévoyant eût pris soin qu'une bonne partie d'entre eux fût en rapport avec les apaisantes régions dominées par l'astronomie, le reste était suffisant pour emplir son cœur de malaise. Il revit soudain la table du roi Ferdinand à Caserte, encombrée elle aussi de dossiers, de questions à examiner. On pouvait ainsi se donner l'illusion d'endiguer le torrent du destin, cependant qu'il suivait son cours dans une autre vallée. Salina pensa à un remède découvert depuis peu aux États-Unis qui supprimait la souffrance durant les opérations les plus graves et permettait de rester serein au milieu des pires douleurs. On appelait morphine ce vulgaire substitut chimique du stoïcisme antique et de la résignation chrétienne. Pour le pauvre roi, une administration fantomatique tenait lieu de morphine. Mais l'astronomie, la morphine de Salina, était d'une espèce plus raffinée. Il chassa les images de Ragatizzi perdues, d'Argivo Calais menacées et se plongea dans la lecture du plus récent numéro du Journal des Savants. Les dernières observations de l'observatoire de Greenwich présentent un intérêt tout particulier. Il dut cependant abandonner bien vite les royaumes stellaires et glacés. Don Ciccio Ferrara, le comptable, entrait. C'était un petit homme sec, qui cachait l'âme rapace et pleine d'illusions d'un libéral derrière des lunettes rassurantes et des petits nœuds de cravate immaculés. Ce matin-là, il était plus alerte que d'habitude, évidemment. Les nouvelles qui avaient tant déprimé le père Pirone avaient agi sur lui comme un cordial. « Triste temps, Excellence, » dit-il, après les respects d'usage. « De gros ennuis se préparent, mais après un peu de désordre et quelques coups de feu, tout ira pour le mieux du monde. Une nouvelle ère de gloire commencera pour notre Sicile, si tant de braves garçons ne devaient y laisser leur peau. Il y aurait de quoi se réjouir. » Le prince grognait, sans exprimer d'opinion. Don Ciccio, il faut mettre un peu d'ordre dans la perception des redevances de Querchetta. Il y a 2 ans qu'on n'en voit pas un sou. La comptabilité est en règle, Excellence. C'était la phrase magique. Il n'y a qu'à écrire à Don Alonjo Mazza d'exécuter les formalités. Je soumettrai aujourd'hui même la lettre à votre signature. Et l'intendant s'écarta pour fouiller dans les énormes registres. Là, avec 2 ans de retard, s'inscrivaient en calligraphie minutieuse tous les comptes de la famille Salina, sauf ceux qui étaient réellement importants. Resté seul, le prince retarda son plongeon dans les nébuleuses. Il était irrité. Non pas tant des événements eux-mêmes que de la stupidité de Don Ciccio, en qui il avait immédiatement reconnu la future classe dirigeante. Ce que dit ce type-là est tout juste le contraire de la vérité. Il plaint les braves garçons qui crèveront, et il y en aura très peu. Si je connais bien le caractère des 2 adversaires, il y aura juste ce qu'il faut pour rédiger un bulletin de victoire à Naples ou à Turin, ce qui est d'ailleurs la même chose. Il croit au temps glorieux pour notre Sicile, comme il dit, mais ils nous ont été promis à l'occasion de 1000 débarquements que nous avons déjà connus depuis Nicias. On les attend toujours, les temps glorieux. Du reste, pourquoi arriverait-il? Et qu'est-ce qui se passerait, hein? Des négociations ponctuées de coups de feu inoffensifs et après, plus ça changera, plus ça sera la même chose. les paroles ambiguës de Tancrède revenaient à l'esprit du prince. Maintenant, il les comprenait à fond. Il se sentit rassuré et cessa de feuilleter sa revue. Il regardait les flancs du mont Pellegrino brûlés, ravinés, éternels comme la misère. Peu après apparut Rousseau, le plus original de ses subordonnés, pensait-il. Svelte, enveloppé non sans élégance dans sa bounaka de velours à côte, les yeux avides, sous un front sans remords, il était la parfaite expression d'une classe en pleine ascension, déférent du reste, et assez sincèrement affectueux, car il accomplissait ses pilleries avec la conviction d'exercer un droit. J'imagine à quel point le départ de M. Tancrède doit ennuyer votre Excellence, mais son absence sera de courte durée, j'en suis sûr, et tout finira bien. Une fois de plus, le prince se trouva devant cette énigme sicilienne. Dans cette île secrète, où les maisons sont soigneusement closes, où les paysans disent ne pas connaître la route qui mène à leur propre village, et elle passe sur la colline à deux pas. Dans cette île, malgré un luxe ostentatoire de mystère, la réserve est un mythe. Salina fit signe à Rousseau de s'asseoir, le regarda droit dans les yeux. « Pierre, parlons d'homme à homme. Toi aussi, tu es mêlé à ces histoires ?»«
Mêlé, non, » répondit-il.
Il avait une famille à charge, et ces risques-là sont pour des jeunes gens comme M. Tancrède. Comment pouvez-vous imaginer que je pourrais cacher quelque chose à votre Excellence, qui est comme un père pour moi ? En attendant, 3 mois avant, il avait caché dans son magasin 300 paniers de citrons venant des vergers du prince. Et il savait que le prince savait. Mais je dois dire que mon cœur est avec eux, avec ces courageux garçons. Il se leva pour laisser entrer Bendico qui faisait trembler la porte sous ses assauts passionnés. Il se rassit. Votre Excellence le sait, on n'en peut plus. Perquisition, interrogatoire, paperasserie, pour un oui ou pour un non, un sbire à chaque coin de la maison, les honnêtes gens ne sont plus libres de s'occuper de leurs propres affaires. Après, au contraire, nous aurons la liberté, la sécurité, des taxes plus légères, des facilités, le commerce. Tout le monde s'en trouvera mieux.
Bah, il n'y a que les prêtres qui y perdront. Bah, le Seigneur protège les petites gens comme moi et non pas eux.
Le prince sourit. Il savait que c'était justement Rousseau qui, par personne interposée, voulait acheter Argivocale. Il y aura des journées de bagarre et de désordre, mais la Villa Salina sera comme une forteresse. Votre Excellence est notre père et j'ai beaucoup d'amis. Les Piémontais n'entreront que le chapeau à la main pour présenter leur respect à vos Excellences. Et puis enfin, l'oncle est le tuteur de Don Tancrède. Le prince se sentait humilié. Il se voyait tomber au rang de protégé de Rousseau et de ses amis. Son seul mérite était, semblait-il, son rôle de tuteur auprès de ce morveux de Tancrède. Si ça continue, dans une semaine, j'aurai la vie sauve grâce à l'appui de Bendico. Il tordait entre ses doigts une oreille du chien avec tant de force que la pauvre bête gémissait. Honorée, certes, mais torturée.
Il mulino, il fonte, il bosco, e la fattoria. Mira viso a luoghi ameni in cui lieto
Sai, con quei begli occhi, come dolce il cor mi tocchi, qual richiami ai miei pensieri, adorabile, adorabile beltà, per adessa a qual tu sei, sul mattino dell'età. Per adessa qual tu sei sul mattino dell'età, per adessa qual tu sei sul mattino dell'età.
En liberté, Denis Flagel.
Et donc, après le moment musical habituel, nous revenons au roman Le Guépard de Lampedusa. Le prince laissa Bendico tout essoufflé, remonta l'escalier, traversa les salons où ses filles bavardaient avec leurs amis du couvent. À son passage, il y eut un bruissement de jupes soyeuses tandis que les jeunes filles se levaient. Il gravit un long et étroit escalier et déboucha dans la grande lumière azurée de l'observatoire. Le père Pironet avait l'aspect serein d'un prêtre qui a dit sa messe et pris un café bien fort avec des biscuits. Il était plongé dans des formules algébriques. Les deux télescopes et les trois longues vues aveuglées par le soleil étaient couchés sagement, un bouchon noir sur l'oculaire, comme des bêtes bien dressées qui savent qu'on ne leur donne à manger que le soir. La vue du prince arracha le père à ses calculs et lui rappela la situation embarrassante de la veille. Il se leva, salua respectueusement, mais ne put s'empêcher de dire « Votre Excellence vient se confesser ?» Le prince, à qui le sommeil et les conversations du matin avaient fait oublier l'épisode nocturne, fut tout étonné. « Me confesser ? Mais ben, ce n'est pas samedi, aujourd'hui !» Puis il se souvint et sourit. « Ma foi, mon père, ce serait bien inutile, vous savez déjà tout. » Cette insistance à faire de lui un complice irrita le jésuite. « Excellence, l'efficacité de la confession ne réside pas dans les récits des faits, mais dans le repentir. Tant que vous ne vous repentez pas et ne montrez pas que vous vous repentez, vous restez en état de péché mortel, que je connaisse ou non vos actions. » Il épousseta méticuleusement un grain de poussière qu'il voyait sur sa manche et se replongea dans ses abstractions. Mais le prince se sentait si calme, depuis qu'il avait fait ses importantes découvertes politiques, qu'il se contenta de sourire de ce qu'il aurait appelé insolence en une autre occasion. Il ouvrit une des fenêtres de la tourelle. Le paysage étalait généreusement ses beautés. Sous le levain du grand soleil, toute chose semblait perdre sa pesanteur. La mer, au fond, était une tache de couleur pure. Les montagnes qui, la nuit, paraissaient inquiétantes et pleines d'embûches, étaient à présent des amas de vapeurs sur le point de se dissoudre, et la farouche Palerme elle-même s'étendait apaisée autour des couvents, comme un troupeau au pied de ses bergers. Dans la rade, les navires étrangers à l'ancre, envoyés en prévision de troubles, ne parvenaient pas à faire croire au danger au milieu de ce calme majestueux. Le soleil, qui était pourtant loin d'avoir toute sa force en cette matinée du 13 mai, se révélait l'authentique souverain de la Sicile, violent et impudent. Fort comme un narcotique, il annulait les volontés individuelles et maintenait tous les êtres dans une immobilité servile, bercée de rêves violents, de violences qui avaient l'arbitraire des rêves. Il en faudra des Victor Emmanuel pour changer cette potion magique qu'on nous verse de là-haut. Le père Pironet s'était levé, rajustant sa ceinture. Il se dirigea vers le prince, la main tendue. « Excellence, j'ai été trop brusque. Gardez-moi votre bienveillance, mais écoutez-moi, confessez-vous. » La glace était rompue. Le prince exposa au père Pironet ses intuitions politiques, mais le jésuite était bien loin de partager son soulagement. Au contraire, il fut mordant à nouveau. Pour parler net, vous autres nobles, vous vous mettez d'accord avec les libéraux, que dis-je, avec les francs-maçons sur notre dos, sur le dos de l'Église. Car il est bien évident que nos biens, qui sont le patrimoine des pauvres, seront raflés et partagés au petit bonheur entre les meneurs les plus impudents. Après ça, qui donc sauvera de la famine les innombrables malheureux qui sont actuellement nourris et guidés par l'Église. Le prince restait silencieux. Comment fera-t-on pour calmer ces foules désespérées ? Je vais vous le dire, Excellence, on leur jettera en pâture un premier morceau, puis un second, puis finalement la totalité de vos terres. Et Dieu ainsi aura accompli sa justice. Fût-ce à l'aide des maçons. Le Seigneur guérissait les aveugles du corps, mais les aveugles de l'esprit, quelle fin feront-ils ? Le malheureux père Pironet, haletant, éprouvait une sincère douleur à l'idée de voir gaspiller le patrimoine de l'Église, mais en même temps, il se sentait plein de remords pour s'être laissé une fois de plus entraîner. Enfin, il craignait d'offenser le prince qu'il aimait, et dont il connaissait les bruyantes colères, mais aussi la distraite bonté. Il restait donc sur ses gardes et observait Don Fabrice qui, à l'aide d'une petite brosse, nettoyait le mécanisme d'une lunette d'approche et semblait absorbé par ce travail méticuleux. Au bout d'un moment, le prince se leva, s'essuya longuement les mains avec un chiffon. Son visage était sans expression, ses yeux clairs semblaient seulement attentifs à découvrir la plus petite tache de graisse à la racine de ses ongles. En bas, tout autour de la villa, le silence était lumineux, profond, aristocratique. Il était souligné plutôt que troublé par le lointain aboiement de Bendico qui injuriait le chien du jardinier au fond du verger, et par le battement rythmé, sourd, du couteau du cuisinier qui, là-bas dans la cuisine, hachait la viande pour le repas. Le grand soleil, autant que l'âpreté de la terre, avait épuisé la turbulence des hommes. Le prince s'approcha de la table, s'assit près du père Pironnet et se mit à dessiner des lys bourboniens bien pointus avec le crayon soigneusement taillé que le jésuite avait abandonné dans sa colère. Il avait l'air sérieux, mais tellement serein, que le père Pironnet sentit s'évanouir toutes ses angoisses. « Nous ne sommes pas des aveugles, mon cher père, nous sommes seulement des hommes. » Nous vivons dans une réalité mobile à laquelle nous essayons de nous adapter comme des algues qui ondulent sous le mouvement des vagues. On a promis explicitement l'immortalité à notre Sainte Mère l'Église. Mais à nous, en tant que classe sociale, non. Pour nous, un palliatif qui promet de durer 100 ans équivaut à l'éternité. Nous pourrons à la rigueur nous inquiéter pour nos fils, peut-être pour nos petits-fils. Mais au-delà de ce que nous pouvons caresser de nos mains, nous n'avons pas d'obligation. Et je ne peux guère me préoccuper de ce que seront mes éventuels descendants en l'an 1960. L'Église, au contraire, doit y penser, car elle est destinée à survivre. Jusque dans son désespoir, le réconfort est implicite. Et croyez-vous que si elle pouvait maintenant ou dans l'avenir se sauver à notre détriment, elle ne le ferait pas? Certes, si, elle le ferait. Et elle aurait raison. Le père Pironnet était tellement content de ne pas avoir offensé le prince qu'à son tour, il ne se sentit pas offensé. Cette expression « désespoir de l'Église » était inadmissible. Mais une longue habitude du confessionnal le rendait capable d'apprécier l'humour sans illusion de Don Fabrice. Il ne fallait pas, cependant, laisser triompher l'interlocuteur. « Vous aurez 2 péchés à me confesser, samedi, Excellence. Péché de la chair hier, péché de l'esprit aujourd'hui. Il faudra vous en souvenir. » Tous les deux, apaisés, se mirent à discuter d'un rapport qu'il fallait envoyer au plus tôt à un observatoire étranger, soutenu et guidé par les nombres, invisible à cette heure, mais présent. Les astres rayaient l'éther de leur exacte trajectoire. Fidèles au rendez-vous, les comètes s'étaient habituées à se présenter ponctuellement à 1 seconde près devant qui les observait. Elles n'étaient pas messagères de catastrophe, comme Stella le croyait. Leur apparition prévue était au contraire le triomphe de la raison humaine qui se projetait dans les cieux et prenait part à leur sublime normalité. Peu importe si en bas les Bendico poursuivent des proies rustiques, si le couteau du cuisinier triture la chair d'animaux innocents. À la hauteur de l'observatoire, les fanfaronnades de l'un, l'activité sanguinaire de l'autre, se fondent en une tranquille harmonie. Le vrai problème est de continuer à vivre la vie de l'esprit dans ses moments les plus sublimes, les plus semblables à la mort. Ainsi raisonnait le prince, oubliant ses perpétuelles lubies, ses caprices charnels de la veille. Ces moments d'abstraction le firent peut-être plus intimement absoudre, c'est-à-dire le rattachèrent à l'univers, mieux que s'il avait reçu la bénédiction du père Pirone. Pendant une demi-heure, ce matin-là, les dieux du plafond et les singes des tentures furent de nouveau réduits au silence. Mais au salon, personne ne s'en aperçut. Quand la cloche du repas les appela, ils étaient tous les deux rassérénés, aussi bien par la compréhension des événements politiques que pour s'être élevés bien au-delà. Voilà, nous avons terminé pour ce soir cette suite du roman de Lampedusa, le guépard, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.